troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la Mésopotamie dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, émission d'archives sur la naissance de l'assyriologie. Après vous avoir conduit lundi dans l'exposition du Louvre-Lens, l'histoire commence en Mésopotamie, puis avoir marché hier avec Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury en compagnie d'Hérodote à Babylone, et avant demain de débattre des relations entre l'Égypte des pharaons et la Mésopotamie, nous allons nous demander ce matin, en compagnie de Daniel Koenigsberg, qui nous lira les textes qui accompagneront notre discussion, comment est née l'assyriologie au XIXe siècle. Nous le ferons en compagnie de Victor Massé de l'Épinay, qui a préparé cette semaine avec nous, de Cécile Michel, elle est assyriologue et directrice de recherche au CNRS, présidente de l'Association internationale de l'assyriologie, et de Dominique Charpin, il est professeur au Collège de France.
J'ai reçu de M. Botta un fragment des sculptures de Khorsabad. C'est la tête de l'enfant que l'on voit représentée sur la planche 6. Je l'ai fait lithographier. Et le lecteur le trouvera sur la planche 21 dans les dimensions de l'original. Quant à la pierre elle-même, j'en ai fait hommage au cabinet des antiques de la Bibliothèque royale. Les lecteurs sont sans doute frappés de la beauté de cette sculpture et ils apprendront avec plaisir que M. Villemin, ministre de l'Instruction publique, et M. le comte du Châtel, ministre de l'Intérieur, ont, sur l'avis de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, alloué à M. Botta de nouveaux fonds pour la continuation de ses fouilles et lui ont envoyé un dessinateur habile, M. Flandin, qui, dans son voyage en Perse, a fait preuve de la fidélité avec laquelle il s'est représenté les monuments sculptés. On peut donc être assuré que ceux mêmes des bas-reliefs qu'il sera impossible de sauver seront conservés dans des représentations fidèles et que tout ce qui pourra être transporté sera envoyé en France et y formera un musée assyrien unique dans le monde. L'Europe savante rendra des grâces aux deux ministres qui ont bien voulu faire tout ce qu'il fallait pour tirer le plus grand parti possible, dans l'intérêt de la science, d'une découverte destinée à jeter un si grand jour sur une des parties les plus obscures et les plus intéressantes de l'histoire ancienne.
Voilà pour ce premier texte de Jules Moll, publié en 1845 avec la correspondance de Paul-Émile Botta. Bonjour Victor Massé de l'Épinay.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Cécile Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à vous Dominique Charpin.
Bonjour.
Quand on entend ce texte, on voit que c'est 1845, donc première moitié du 19e siècle. La première question que l'on se pose, c'est de se demander pourquoi et comment des Français, mais également des Britanniques, se rendent dans ce terrain qui n'est pas la Mésopotamie, puisque ça s'est transformé depuis en secteur de l'Empire ottoman en particulier, et pas simplement cet endroit du monde au milieu du 19e siècle, pour pouvoir y faire des fouilles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Cécile Michel ?
Bien, en fait, il y a une espèce de rivalité franco-britannique pour contrôler la route des Indes, et on s'aperçoit que les premiers consuls de France à Mossoul, et puis aussi les Britanniques qui sont installés dans la région, commencent à s'intéresser aux antiquités. Alors, c'est un intérêt qui remonte un peu quelques décennies plus tôt, avec des voyageurs qui se sont promenés dans la région, mais ces premiers consuls, ces premiers diplomates s'inventent archéologues et commencent à fouiller des sites qui sont à proximité. Alors, Paul-Émile Botta a commencé par faire des prospections sur le tel de Nebi Yunus, à proximité. Et puis, il ne trouve pas grand-chose et il abandonne ce site au bout d'une saison de fouilles pour reporter ses travaux sur Khorsabad, du côté de Mossoul, pas très loin. Et c'est en fait la région qui a donné les principales capitales assyriennes. Et bien, grand mal lui a pris d'abandonner son premier choix, puisque ce site s'avérera être par la suite le site de Ninive, qui va être repris par les Britanniques.
Rivalité franco-britannique, nous explique Cécile Michel. Dominique Charpin, est-ce qu'il y a un lien avec les découvertes précédentes en Égypte, évidemment, avec l'épopée donc de toute l'expédition scientifique qui accompagne Bonaparte en Égypte, les découvertes de Champollion aussi? Est-ce qu'on peut faire le lien entre cette partie-là de l'histoire des sciences, pourrait-on dire, et ce qui va être fait dans ces années 1840-1850 du côté de la Mésopotamie.
Alors, dans le mouvement général, c'est tout à fait exact, mais je dirais il y a deux différences essentielles. La première, c'est que ces explorations dans le nord de l'Irak actuel ne sont pas liées à des événements militaires, comme ça a été le cas pour l'Égypte avec Bonaparte. Et d'autre part, il n'y avait pas de vestiges apparents, très monumentaux, comme en Égypte, tout simplement parce que l'architecture en Mésopotamie est essentiellement à base de briques crues, et donc on avait des collines artificielles, ce qu'on appelle des tels en arabe, et c'est ça qu'on voyait dans le paysage, et pas plus. Évidemment, ça rendait les choses plus compliquées pour les archéologues, qui n'étaient pas encore des archéologues professionnels, comme aujourd'hui.
Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une discipline s'inventer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des consuls. Ils ont des fonctions qui sont des fonctions plutôt diplomatiques, mais ils sont évidemment assez cultivés, ils s'intéressent à l'endroit où ils vivent, et à partir de ce moment-là, ils vont s'improviser archéologues, Cécile Michel.
Ils s'improvisent non seulement archéologues, mais ils le font sur leur propre denier, parce que le texte que nous avons entendu montre que c'est grâce au succès obtenu par les premières fouilles à Khorsabad que finalement il va y avoir des courriers échangés avec la France et qu'on va pouvoir décrocher des fonds plus officiels. Mais les premiers travaux, c'est vraiment de la passion. Ils s'intéressent à ce qui est autour d'eux et c'est avec leurs propres fonds qu'ils lancent des fouilles.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Cécile Michel, vous nous dites qu'ils s'intéressaient à ce qu'il y avait autour d'eux et vous avez évoqué tout à l'heure Ninive. Ninive, ça fait immédiatement penser à l'histoire de Jonas dans la Bible. Est-ce que la Bible sert de matrice à ces premiers archéologues de la Mésopotamie? Est-ce que c'est de ça qu'ils partent? Est-ce qu'ils recherchent les sites bibliques? Quelle importance ça a? Alors, les Écritures saintes?
Oui, évidemment. En fait, il faut reprendre le problème un peu inversement, c'est-à-dire que à partir du moment où la dernière tablette cunéiforme a été arrêtée, enfin, on a arrêté d'écrire sur un support d'argile, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, on a absolument tout oublié de cette civilisation mésopotamienne. Contrairement aux Grecs, aux Romains, le latin, le grec ont toujours été utilisés, l'hébreu aussi, mais là, on avait absolument tout oublié.
Et ce qui est risqué dans l'imaginaire, il y a une sorte
un oubli total. Effacement.
Aucune transmission de ce qui s'était passé pendant ces millénaires.
Voilà, et tout ce qu'en fait est parvenu à ces savants du 19e siècle, c'est ce qui était écrit dans la Bible. Alors dans la Bible, on avait une description de l'Éden avec les quatre fleuves qui traversaient l'Éden, dont le Tigre et l'Euphrate. Donc on supposait que c'était dans la région de Sumer. On avait effectivement mention de Ninive, cette ville absolument surdimensionnée et où il se passait des choses pas forcément très bien et qui méritaient d'être détruites. On avait plus de 200 mentions de Babylone. Donc on avait une idée de cette civilisation antique, mais on en avait perdu absolument toute trace. Et pareil pour les écrits des auteurs classiques.
Et alors est-ce que les archéologues de l'époque considérait la Bible comme une source, comme une porte d'entrée.
Comme une source historique, absolument. Ils se basaient sur le texte biblique pour essayer de retrouver. Donc, ils étaient à la recherche de Ninive, ils étaient à la recherche de cette grande cité assyrienne.
Et ce qui est amusant, c'est qu'on sait, par exemple, que les inventeurs de la préhistoire, à peu près à la même époque, parce qu'on a appelé plus tard la préhistoire en Europe occidentale, sont ceux qui vont se bagarrer, justement, contre la Bible, parce que la Bible donne une date de naissance particulière à la Terre, et à partir de ce moment-là, ils vont devoir montrer qu'avant cette date de naissance, il y avait donc des âges antédiluviens, par exemple, qui auraient vu des hommes et d'autres créatures vivre sur le territoire de l'Europe occidentale. Donc on voit bien qu'il y a deux tendances, pourrait-on dire, une qui veut confirmer la Bible et puis d'autres qui, à peu près en même temps, voudront l'infirmer, en l'occurrence Dominique Charpin.
Oui, la confirmation, elle est venue avec un certain nombre de monuments. Par exemple, lorsque les Anglais ont découvert un obélisque sur lequel il y avait le roi Yehou qui se prosterne devant le roi assyrien pour lui remettre tribut et qui est identifié comme tel, là, pour le coup, les gens disaient, vous voyez bien que la Bible, historiquement, c'est quelque chose qui se tient. Et pour ces périodes-là, en effet, il y a eu des relations très étroites entre l'Empire assyrien et les monarques aussi bien d'Israël que de Juda. Et donc, ce que dit la Bible est en tout à fait un reflet de ce qui s'est effectivement passé et qu'on a connu après par les sources assyriennes.
Donc, se promener avec la Bible en main, c'était une bonne manière d'aborder cette ce nouvel espace géographique et historique, en l'occurrence, Cécile Michel.
Bonne manière, pas nécessairement, parce que l'histoire qui nous est parvenue par la Bible est transformée, déformée, réécrite. Mmh. Donc, cela pouvait induire en erreur, effectivement, les savants dans leur recherche. Mais c'était une base, et c'était la seule base dont ils disposaient.
Qui est Félicien de Saucy, dont on va lire un extrait de texte, Dominique Charpin?
Oui, il jouait un rôle important par la société asiatique, notamment. C'était une époque où il y avait une effervescence complète de tout l'orientalisme, comme on disait à l'époque. Et donc, on a différents acteurs en France qui servaient de relais pour les recherches qui se faisaient sur le terrain.
Un texte de Félicien de Saucy, donc publié dans la Revue des Deux Mondes en 1847, lu par Daniel Königsberg.
Et qui parle donc du palais de Khorsabad. On comprend avec quelle ardeur on désirait voir arriver à Paris les débris de ce somptueux palais. Il fallait donc tenter d'en sauver quelques-uns. Pour le faire, M. Botta dut se créer toutes les ressources qui lui manquaient. Voulant d'abord assurer au musée assyrien de Paris la possession de l'une des portes merveilleuses du palais, il fut obligé de faire construire un chariot de transport qui permit de conduire les blocs jusqu'au bord du Tigre. Mais il était impossible de songer à effectuer une pareille manœuvre sur des masses aussi considérables que celles des colosses ninivites. Force fut donc de se décider à les dépecer à la scie en tronçons maniables. Cette opération fut exécutée sous l'active surveillance de M. Botta, mais il eut la sage précaution de faire enterrer intacts quelques colosses du même genre, afin que l'on pût, si le gouvernement du roi le désirait, faire arriver à Paris quelques-unes de ces magnifiques sculptures entièrement vierges des mutilations nécessitées alors par l'insuffisance des ressources. Embarqués d'abord sur des kélèques, sortes de frêles radeaux soutenus par des outres gonflées, à l'aide desquelles se font tous les transports sur le Tigre, les caisses contenant ces précieux débris ont été conduites à Bassora, où un bâtiment de la marine royale est allé les chercher par un ordre express du roi. Vers le commencement de l'année 1847, ce bâtiment arrivait au Havre, et peu de semaines après, toutes les caisses étaient transportées au Louvre.
Voilà ce texte qui évoque la création du premier musée assyrien au Louvre. Je vous regardais, Cécile Michel, pendant la lecture que nous fait Daniel Königsberg. Vous avez fait une grimace, soulevé les yeux au ciel quand on a entendu que Botta avait tronçonné à la scie ces magnifiques sculptures. Ce qui est frappant, c'est que Botta, dont on va peut-être parler un peu plus, on voit qu'il se débrouille vraiment tout seul. Il est perdu un peu à Mossoul, il fait ses fouilles à Khorsabad. Il doit se débrouiller comme il peut, il prend des initiatives. C'est quand même assez fascinant de se rendre compte que la discipline est née comme ça.
Oui, il s'est formé tout seul à l'archéologie. Il n'avait aucune notion de ce qu'était l'archéologie. Et quand il découvre Khorsabad, c'est quand même... Khorsabad, il faut imaginer quelque chose d'absolument somptueux. C'est une capitale construite sur un terrain vierge de toutes pièces par Sargon II, qui décide d'en faire sa capitale et qui mène des travaux mais absolument gigantesques pendant une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, il aura à peine le temps d'inaugurer sa capitale qu'il n'en profitera pas du tout. Il meurt très peu de temps après.
À quelle époque ?
C'est en 711...
Oui, bon, 705.
Voilà. Et en fait, c'est ce palais donc qui est construit avec des pierres et des reliefs et des orthostates et des gigantesques taureaux ailés à tête humaine. C'est des pièces énormes, donc c'est effectivement quasiment intransportable. Ça demande énormément d'inventivité et d'imagination pour savoir comment les déplacer, etc. Je grimaçais, oui, parce que malheureusement, dans toute cette histoire, effectivement, il y a eu des envois au Louvre, mais le plus dramatique, c'est l'envoi qui est fait en mai 55, parce que les pièces, tout ce qui est relief, c'est une pièce énorme, etc., sont portées sur des radeaux qu'on appelle des kélèques, et sont sur le cours du Tigre, et le convoi est attaqué par des Bédouins, et en fait, l'essentiel se noie.
Mais on pourrait la retrouver aujourd'hui.
Ah ben ça.
Dans le cours, enfin c'est vrai que la région est assez peu propice ces temps-ci aux fouilles archéologiques, en l'occurrence Dominique Charpin.
Alors pas du tout. Le sud de l'Irak, en fait, l'activité archéologique reprend et c'est une chose importante à dire. L'année dernière, j'ai participé à la reprise des fouilles d'Our, donc tout à fait dans le sud. Donc on est dans la région autour de Bassora. C'est une région qui
est marée un peu.
Oui, mais qui n'a pas de problèmes politiques importants puisque la population est entièrement chiite, d'une part. Il y a les champs pétrolifères qui font que l'économie se porte bien. Et donc, cette partie de l'Irak, à l'heure actuelle, on peut à nouveau y travailler. Et il y a des missions anglaises, italiennes, américaines qui recommencent le travail.
Alors, ces consuls qu'on envoie sur place, soit français, soit britanniques, en l'occurrence Cécile Michel, ils sont un peu diplomates, on l'a compris, c'est leur métier, mais ils sont un peu espions, ils sont là aussi pour empêcher les autres d'avancer plus vite, il faut trouver un chemin pour aller plus loin vers les Indes, comme déjà du temps de Napoléon Bonaparte, et ils sont là pour ça aussi.
Bien sûr, il y a une rivalité énorme donc entre les Britanniques et les Français pour contrôler cette route des Indes par laquelle arrive le commerce. Enfin, il y a une ouverture commerciale très intense, et donc effectivement, ils sont là aussi pour contrôler ça. Mais au-delà de cette rivalité diplomatique et commerciale, il y a la rivalité sur les chantiers de fouilles.
Oui, qui est importante aussi. Victor Bassel Lépiné.
Oui, le texte de Félicien de Saucy évoquait tout de même la création du musée d'assyriologie au Louvre, 1847. Il faut le dire, c'est le premier musée d'assyriologie du monde. Pour le coup, là, on devance les Anglais. Comment ça a été reçu, perçu? Est-ce que les journaux s'en sont beaucoup fait l'écho?
Oui, c'est décidé par Louis-Philippe. Hein, oui, ça aura un impact très important. Bah, imaginez ce taureau ailé, ces pièces qui viennent de Khorsabad et qui viennent effectivement alimenter ce premier musée assyrien. Oui, ça a un impact très important au niveau du public.
Dominique Charpin.
Et alors, ce qu'on peut dire à propos du transport de ces colosses, c'est que au moment de la construction du Grand Louvre, il a fallu sortir ces taureaux de la cour carrée du Louvre pour les installer dans ce qui est aujourd'hui la cour de Khorsabad. Et on peut inviter nos auditeurs qui n'auraient pas encore vu cet ensemble extraordinaire d'aller le faire. Et donc, j'ai eu la chance, avec un certain nombre de collègues, de pouvoir voir un dimanche matin de bonne heure, parce qu'il ne fallait pas trop troubler la circulation rue de Rivoli, de voir les énormes machines modernes qui ont permis de transporter d'un bloc cette fois ces taureaux ailés. Et alors on les avait bien entendu protégés, mais on avait gardé leur tête ouverte. Et c'était très curieux de voir ce visage qui regardait comme ça l'extérieur de Paris. C'était quelque chose de tout à fait surréaliste.
Ce qui est quand même très, très étonnant, c'est qu'on sait combien, et il y a un quartier de Paris qui en garde la trace architecturale, combien l'égyptologie a été à la mode dans les années 1810-1820 et combien, au bout du compte, on a créé un quartier avec les rues du Caire, rue de Damiette, au-dessus du sentier à Paris, avec des architectures qui sont parfois des architectures parodiques ou qui parodient l'architecture trouvée près des pyramides et en Égypte antique. Il n'en a pas été de même, d'une certaine façon, de ces découvertes de Khorsabad, même si elles impressionnent le public. On ne les reprend pas dans l'architecture des années 1860 ou 1870 en France.
Non, en effet, il n'y a jamais eu d'équivalent d'égyptomania pour ce qui est de la Mésopotamie ancienne. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. La première, c'est que l'Égypte, c'est quand même Napoléon qui est derrière. Donc, c'est un autre
statut. Ça n'est pas Louis-Philippe, c'est sûr.
Exactement. Et puis, il y a effectivement Jean-François Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes, qui est français, c'est la gloire nationale. Comme le disait tout à l'heure Dominique Charpin, pour la Mésopotamie, à part ces palais assyriens, les ruines ne sont absolument pas impressionnantes, contrairement aux pyramides d'Égypte, etc. C'est des tas de terres empilées les unes sur les autres et qu'on appelle des telles, et ça ressemble en rien. Donc il n'y a pas tout cet aspect visuel qui est très très important.
Dominique Charpin.
Et par rapport au déchiffrement de l'écriture aussi, on a l'épopée romantique du jeune Champollion qui meurt de bonne heure en plus, alors que pour le déchiffrement de l'écriture cunéiforme, ça a été un travail collectif fait par des messieurs qui étaient d'âge plus rassis, et donc il n'y a pas cet aspect romantique, et ça, je pense que ça a joué aussi.
Oui, c'est-à-dire effectivement il faut mettre un nom derrière un découvreur, en l'occurrence, là ce sont des découvertes qui sont collectives. Alors Alors, vous nous avez dit que ces consuls qui étaient partis pour l'Irak étaient des consuls qui avaient quelques difficultés, parfois financières et parfois de transport, pour pouvoir faire revenir dans leur pays respectif leur découverte. Ils ont aussi beaucoup de difficultés même à faire leurs fouilles et à les mener. Ainsi, Victor Place, consul à Mossoul, qui écrit à son frère le 8 mai 1855, Victor Place a succédé à Paul-Émile Botta, que vous avez évoqué juste auparavant, comme consul de la France à Mossoul. Et visiblement, ça n'est pas si simple que cela. Daniel Königsberg.
Je suis indigné contre l'administration, car jamais je n'ai vu une conduite pareille. Après avoir tant travaillé, avoir fait des découvertes inespérées, j'aurai donc pour tout partage des dettes et ma position consulaire compromise. Véritablement, c'est trop fort. Quand je me rappelle ce que j'ai souffert pendant ces deux campagnes, vivant dans une misérable cabane de boue, dévoré par les puces qui souvent ne me laissaient pas fermer l'œil de la nuit, inondé par les pluies, sans le feu dans les jours humides de l'hiver, exposé à un soleil impitoyable dans l'automne et le printemps, risquant ma santé, ne pouvant me procurer qu'une nourriture rebutante, et avec cela, un qui-vive continuait la cause des attaques toujours possibles des Arabes. Je me demande comment j'ai pu y résister.
Voilà pour cet extrait de Victor Place, consul à Mossoul, qui écrit à son frère le 8 mai 1855 sur les conditions de réalisation d'un chantier archéologique. C'est mieux aujourd'hui, je pense.
Les conditions sont quand même nettement meilleures. Mais c'était effectivement des conditions très difficiles à l'époque. Et il y a eu plusieurs expéditions en Mésopotamie. La première décidée par le roi du Danemark en 1760. Eh bien, peu en revenaient vivants. L'expédition de 1761, par exemple, seul Carsten Niebuhr est revenu vivant. L'expédition de Fresnel, finalement, qui a été décidée par le ministère public en 1850 et à laquelle a participé Jules Lopère, Jules Lopère est le seul à être rentré aussi. Donc, c'était effectivement des conditions très difficiles.
Oui, avec Victor Place, il y avait un photographe qui était Gabriel Tranchant, qui lui aussi est mort sur le terrain de maladie. Je parle de ce photographe puisque vous nous disiez que la syriologie n'avait pas de caractère visuel, enfin, ou de dimension visuelle assez spectaculaire. Tout à l'heure, on a évoqué Flandin, qui était avec Paul-Émile Botta, qui était un peintre, lui. Avec Place, son successeur, on est passé à la photographie, avec le daguerréotype, mais tout de même, les œuvres de Flandin qu'on peut voir aujourd'hui à l'exposition du Louvre-Lens ou au Louvre, ces dessins des fresques assyriennes sont des choses absolument merveilleuses, rendues avec des couleurs superbes. Il y a quand même de belles choses dans la Syrie et dans la Mésopotamie.
Alors, pour ce qui est des capitales assyriennes, oui, les capitales assyriennes, les palais étaient construits en pierre. Et donc, effectivement, il y avait ces bas-reliefs et ces statues monumentales. Mais ce n'est pas l'essentiel. En fait, il faut essayer de remettre les choses en place. L'assyriologie, le mot assyriologie, est un abus de langage. Quand on parle d'assyriologie, on couvre tout ce qui est civilisation cunéiforme, c'est-à-dire une douzaine de peuples différents qui ont utilisé l'écriture cunéiforme. Et la Syrie n'en est qu'une partie. Mais comme ce sont les premiers vestiges que l'on a découverts, ça a donné le nom à la discipline dans son ensemble.
Et c'est Monsieur Renan qui va donner le nom à cette discipline, Dominique Charpin ?
Absolument. Pour les spécialistes de l'Égypte ancienne, on disait égyptologue, et donc il a été le premier à dire, pour les spécialistes de la Syrie, on va dire assyriologue. Et le terrain s'est augmenté beaucoup au fil des années, puisque on a aussi exploré le sud de l'Irak et puis les régions voisines, en Syrie, en particulier en Iran, en Anatolie. Mais les spécialistes de cette écriture qu'on avait découverte en Assyrie sont restés assyriologues.
Mais alors, j'imagine le désarroi d'un archéologue qui non seulement va chercher évidemment des fresques s'il en trouve, des statues s'il en trouve également, et qui tombe sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de tablettes d'argile avec cette écriture qu'il ne connaît pas. Moi, c'est une des aventures de la science qui m'impressionne, c'est comment vont-ils d'une certaine façon tenter de traduire ce qu'il y a sur ces tablettes d'argile, tenter de comprendre si toutes ces tablettes d'argile dans tous ces lieux que vous venez d'évoquer, qui sont donc géographiquement très éloignés les uns des autres, racontent la même histoire, parlent la même langue. Et cela, comment ça va se passer d'une certaine façon, Cécile Michel ?
Alors en fait, c'est un long processus. Je vous ai parlé de l'expédition danoise de 1761. En fait, les premières inscriptions qui ont été recopiées et rapportées en Occident, ce sont des inscriptions perses. Et il s'avère que ce sont des inscriptions trilingues, c'est-à-dire avec trois systèmes d'écriture différents, mais tous en cunéiforme.
Donc si vous comparez... ces petites écritures donc, en forme de clous, parce que c'est ce que ça veut dire, cunéiforme, se ressemblent physiquement.
Absolument.
Mais racontent trois histoires différentes, parce que ce sont trois langues qui sont derrière ces écritures.
Alors, ça raconte la même histoire, mais en trois langues différentes.
En trois langues différentes.
Voilà.
C'est l'équivalent d'une pierre de Rosette, pourrait-on dire.
C'est exactement l'équivalent d'une pierre de Rosette, à la différence près que Jean-François Champollion, il avait trois langues, dont le grec. Ouais. Donc, il connaissait l'histoire qui était racontée sur sa pierre de Rosette. Alors que ces premiers savants, ils sont face à des trilingues, trois fois le même texte, mais avec aucune idée de ce qu'il y avait dans le texte.
Déjà, il faut identifier qu'il y a trois langues, puisque quand on voit des écritures cunéiformes, au premier coup d'œil, c'est difficile de s'en rendre compte.
Oui, alors, mais en observant les signes, on s'aperçoit d'abord que dans un certain cas, alors, cette expédition danoise, si on reprend cette expédition danoise, donc Carsten Niebuhr, c'était un botaniste et un mathématicien. Et c'est lui qui a cette première idée, parce qu'il est mathématicien, de compter le nombre des signes dans les trois différents systèmes d'écriture. Et il s'aperçoit que s'il y en a plus de 500, principalement pour deux d'entre elles, pour la troisième, il n'y a que 40 signes. Et donc il émet l'hypothèse que si on n'a qu'une quarantaine de signes pour écrire, on a peut-être quelque chose qui ressemble à un alphabet.
Oui, alors ça c'est extraordinaire, c'est une aventure du savoir et de la connaissance. Tenter de percer des écritures dont on ne sait pas ce qu'elles disent, quelles langues ils sont parlées derrière... Et tout cela pour des savants qui n'ont pas, évidemment, tout l'attirail sophistiqué qu'on peut avoir aujourd'hui quand on découvre ce type de document. Dominique Charpin.
Tout à fait. Et à chaque fois, il y a une intuition qui se révèle juste. Pour Champollion, c'était l'idée que le copte donnerait la clé de la langue égyptienne. Et il était un coptisant parfaitement aguerri. Et c'est comme ça qu'il a pu déchiffrer à partir de la pierre de Rosette. Et dans le cas de l'écriture qu'on appelle persépolitaine, eh bien, c'était la même idée qu'on devait avoir une langue perse. Et donc, à travers les titulatures des rois perses postérieurs, on s'est dit... on doit avoir le même type de titulature. Et on a repéré qu'il y avait des successions de choses qui pouvaient ressembler à des noms propres. Et d'après les titres qui suivaient, on s'est dit, vu ce qu'on sait dans l'histoire de la dynastie, cet ensemble-là, ça devrait être Cyrus. Et donc, on a fait des hypothèses. Et puis, on a essayé de transporter ces valeurs pour d'autres mots. Et on s'est dit, mais oui, ça marche avec du perse. Et voilà, ça a fait boule de neige petit à petit. Et on a réussi à comprendre bien une des écritures. Et à partir de là, c'est par le jeu des noms propres qu'on a réussi à déchiffrer les autres.
Qui sont les héros de cette aventure du savoir, en l'occurrence Cécile Michel, si on veut faire un panorama un peu large de ces personnages?
Alors, le premier, c'est un jeune professeur de latin allemand qui s'appelle Georg Grotefend, qui arrive à lire une quinzaine des 40 signes, comme le disait Dominique Charpin, en étudiant les noms propres. Et puis parce que dans les titulatures royales, on a toujours des séquences qui reviennent, roi, fils de, roi, fils de. Mm-hmm. Et donc, il arrive à déchiffrer une quinzaine de signes sur les 40. Et en fait, c'est Henry Creswick Rawlinson, qui est un militaire à l'origine britannique, qui arrive
qui vient
à terminer.
Compagnie des Indes, donc il, voilà, il vient
exactement.
Un militaire des Indes.
Qui est sur place, qui se promène beaucoup en Iran, et qui arrive à achever de lire les 40 signes qui correspondent à cet alphabet vieux perse. Et c'est lui qui découvre l'inscription de Behistun, qui est gravée à 100 mètres du sol, qui est une inscription à la gloire de Darius Ier, donc sur un rocher qui est très difficile d'accès, mais comme c'est un militaire, il arrive à grimper et à s'accrocher au-dessus du vide pour copier cette inscription.
Victor Massé-Lépiné.
Et on a quelques Français aussi qui jouent un rôle important dans le déchiffrement de ces caractères.
Faisons un petit cocorico tout de même.
Tout à fait.
Avec en particulier, vous l'avez déjà évoqué, Jules Oppert. On peut peut-être parler un peu de Oppert. Qui est-il et quel est son rôle dans l'histoire?
Alors, Jules Oppert, c'est un Allemand qui s'est intéressé à pas mal de choses. Il a appris très jeune l'hébreu, l'arabe, le sanskrit, comme beaucoup de ses savants d'ailleurs, qui avaient tous appris le sanskrit. Et puis, étant juif en Allemagne, il a des difficultés pour trouver un poste et donc il se réfugie en France. Et il vient en France, il est naturalisé quelques années plus tard.
On est dans quelles années à peu près?
Alors, il est né en 1825. C'est en fait un des plus jeunes ceux qu'on déclare officiellement des déchiffreurs du cunéiforme et de l'acadien. Il est né en 1825 et il arrive vers l'âge de 25 ans en France à peu près. Il s'est déjà intéressé de très près à ces écritures cunéiformes. Et c'est assez curieux, mais de son côté, il a aussi découvert des valeurs de ces lettres et syllabes vieux perses de façon tout à fait indépendante de Grotefend et de Rawlinson.
Et puis, il va participer à une expédition, vous nous l'avez dit tout à l'heure, celle de 1852 à Mossoul, qui dure jusqu'en 1854. Il va survivre à cette expédition, contrairement à ses compagnons de voyage.
Absolument.
Et il va donc commencer à publier, à partir de ce moment-là, ce qui pense être ses découvertes, et puis ses découvertes de l'époque.
Alors, il publie très tôt. Il publie, au retour de son expédition, effectivement, plusieurs volumes, dans le désordre, c'est-à-dire d'abord ses travaux sur l'écriture cunéiforme, et puis une relation de son voyage.
Et puis, il va se heurter à cette figure très importante qui est Monsieur Ernest Renan, qui a sa petite idée sur les choses sans jamais être allé sur place. C'est un savant de cabinet, mais il y en a beaucoup à cette époque-là, Dominique Charpin.
Si vous me permettez, on ne peut pas qualifier Renan uniquement de savant de cabinet, puisqu'il a quand même mené une expédition en Phénicie à l'époque du Second Empire.
Mais sur
le territoire mésopotamien, en effet. Mais ce qui s'est passé, c'est que Renan avait mis au point une image de ce qu'est était à ses yeux une langue et une civilisation sémitique, et les découvertes de la Mésopotamie montraient un visage tout à fait différent. Or, une des langues des inscriptions de Behistun dont on a parlé, l'assyrien, eh bien, Hopper soutenait que c'était une langue sémitique, ce qui évidemment était...
Ne rentrait pas dans le système que s'était construit Ernest Renan. Eh bien, d'ailleurs, Jules Hopper, dans la Revue orientale et américaine, en 1859, répond à Renan.
Monsieur Renan dit « La langue sémitique que nous donne Monsieur Hopper blesse en plusieurs points le sentiment que je crois avoir d'une langue sémitique. » En plusieurs points, mais non pas dans les points principaux, non pas dans tous les points. Et puisque nous retrouvons les mêmes phénomènes dans toutes les familles sémitiques, nous tournons même le syllogisme de Monsieur Renan contre lui. Notre savant critique semble dire « La langue assyrienne blesse le sentiment de Monsieur Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points. Donc la langue assyrienne n'est pas sémitique. » Nous, qui ne constatons que des faits, nous dirons « La langue assyrienne blesse le sentiment de Monsieur Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points. Donc Monsieur Renan n'a peut-être pas le vrai sentiment de ces idiomes. » Que les Assyriens sémitiques ont accepté une écriture d'une autre nation tandis qu'ils pouvaient en choisir une qui aurait mieux convenu à leur langue, c'est regrettable. Mais ce n'est pas la faute de messieurs les assyriologues.
C'est ce qu'on appelle une querelle donc universitaire, en l'occurrence, entre savants, entre Jules Hopper donc, et Ernest Renan. Vous pouvez nous résumer cette querelle qui est assez forte à ce moment-là, Dominique Charpin.
Et de la part de Jules Hopper, je dirais qu'il est courageuse, parce que face à Renan, qui était déjà bien installé dans l'establishment universitaire de l'époque, Hopper, lui, était simplement lecteur royal à la bibliothèque. Et donc,
C'était
risqué. Ça n'a finalement pas gêné la carrière d'Hopper, puisqu'il a terminé au Collège de France et à l'Institut. Mais au moment où il écrivait ces lignes, c'était en effet très courageux. Et c'est quelque chose d'important, parce que la suite des déchiffrements nous a montré que on est amené constamment à remettre en cause les évidences. Et personnellement, moi, je me rappelle très bien le choc considérable en 1975 qu'a constitué la découverte des archives royales à Ebla, donc à 60 km au sud d'Alep. On n'imaginait absolument pas qu'il y ait, au milieu du troisième millénaire, une civilisation urbaine aussi développée, parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, tous les manuels écrits avant 1975 sont à oublier pour le troisième millénaire, parce que l'image qu'ils donnent est complètement fausse. La Syrie n'était pas du tout un territoire parcouru par des nomades avec leur petit bétail. Il y avait déjà des villes très importantes qui étaient dans le circuit commercial, culturel de tout le Proche-Orient. Donc, il faut être prêt à remettre en cause ces
évidences. Tout ce qu'on croit savoir.
Voilà.
En fait, Hopper n'était pas le premier à proposer que c'était une langue sémitique. Il y avait déjà Löwenstein en 1846 qui avait déjà proposé cette écriture cache derrière une langue sémitique. Alors sémitique, ça veut dire une famille de langues, hein, parlé par les fils de Parsem. Et en fait, c'est une construction. C'est-à-dire, ce sont des langues qui sont toutes construites de la même façon, sur une racine trilitaire, à partir de laquelle on peut construire n'importe quel type de mot qui véhicule un même sens. Et donc c'était très important parce que l'hébreu, l'arabe sont des langues sémitiques, et donc à partir du moment où on pouvait raccrocher l'idiome qui était derrière cette écriture à une famille linguistique, ça permettait évidemment de faire des bonds en avant sur le déchiffrement.
Et donc, ce déchiffrement, il va prendre combien de temps de ces premières tablettes? On a compris qu'il y avait des tâtonnements au départ, mais que ça va s'accélérer au bout d'un certain temps et que très rapidement, on va trouver que derrière chacune de ces tablettes, il peut y avoir des langues différentes et on va ainsi déchiffrer de plus en plus de tablettes, Cécile Michel?
Tout à fait. Alors, en fait, à partir du moment donc, où on s'est retrouvé dans la situation de Champollion avec... le fait qu'on connaissait le texte qui était derrière, qui était inscrit, puisqu'on avait découvert et déchiffré l'alphabet vieux perse, on va dire il y a une dizaine, une quinzaine d'années qui s'écoulent jusqu'à la date officielle de déchiffrement du cunéiforme, qui est une histoire assez amusante. En fait, il y avait plusieurs savants qui travaillaient parallèlement. Alors, on a parlé du français, naturalisé français, Jules Oppert, mais il y avait aussi trois Britanniques qui concouraient au déchiffrement parallèlement. Donc, je vous ai déjà parlé de Henry Creswick Rawlinson, qui est celui qui est allé sur le terrain recopier les inscriptions, les trilingues, dont celle de Darius Ier sur le rocher de Behistun. Il y avait aussi un pasteur irlandais qui, lui, alors, du coup, n'a jamais bougé et quitté son Irlande natale, mais qui était un savant extraordinaire parce qu'il a, lui aussi, travaillé sur les hiéroglyphes et avait trouvé en parallèle de Champollion quelques clés qui lui permettaient de comprendre les hiéroglyphes. Donc c'était un savant extraordinaire, mais qui travaillait isolé et tout seul, et qui a compris beaucoup de choses très tôt, en fait. Et ce qui énervait assez Rawlinson, d'ailleurs, parce que Rawlinson était assez impatient.
Il y a celui qui allait rouler sa bosse sur place. Et celui
donc,
qui
par exemple, Ince, dans ce système d'écriture donc, qu'on appelait après l'acadien, c'est lui qui a découvert le premier que les signes pouvaient correspondre à des syllabes et que certains signes aussi correspondaient à des mots complets, des logogrammes, c'est-à-dire un signe, un mot ou un signe, une syllabe. Et c'est lui le premier. Et Oppert continue, en fait, sur cette lancée-là et trouve des listes d'équivalents où on a les logogrammes avec leur lecture en signe syllabique. Donc, ce Edward Ince, c'était quelqu'un d'assez génial.
Et donc, on leur fait faire un petit concours, Dominique Charpin, c'est ça? Oui. On leur présente une tablette inédite qui vient d'être trouvée, et puis on leur dit, ben, voilà, on vous fait une copie de cette tablette, de ce qu'il y a dessus, et vous allez concourir chacun de votre côté pour pouvoir nous la déchiffrer, c'est ça?
Voilà, c'est dans les fouilles d'Achour. En 1857, on a découvert un très beau prisme qui était intact, avec ce qui s'est révélé à l'étude être une inscription du roi assyrien Tiglath-Pileser Ier. Et donc l'idée, c'était d'envoyer sous plissé-lé à ces quatre savants, donc Ince, Talbot, Rawlinson et Oppert, une copie. Et puis chacun devait, sans communiquer avec l'autre, envoyer son déchiffrement et une traduction. Et il y a eu une séance de la Société Royale Asiatique à Londres où on a décacheté les quatre traductions, on les a lues et on a trouvé qu'elles concordaient suffisamment pour qu'on puisse considérer le déchiffrement de l'assyrien comme acquis. Donc là, c'est quelque chose qui concordait au-delà des détails. Et donc, on peut dire qu'à partir de 1857, on travaille vraiment sur un terrain solide.
Cécile Michel?
Oui, alors on n'a pas présenté William Fox Talbot,
le
quatrième, qui était un original, qui était donc britannique aussi, mais lui qui a touché absolument à tout. C'est un botaniste assez haut niveau, d'ailleurs il y a plusieurs plantes qui portent son nom. C'est un physicien, il y a une équation qui aussi porte son nom. C'est un mathématicien, il y a même un cratère de la Lune qui porte son nom. Et en plus, c'est lui qui a inventé le procédé qui permet à partir d'un seul négatif de reproduire à l'infini la photographie, donc ce qu'on appelait calbotype ou talbotype.
Ah oui.
Et quand vous parliez tout à l'heure des daguerreotypes qui ont été pris sur les premières fouilles, en fait, ce n'est pas des daguerreotypes, c'est des calotypes. Donc, c'est l'invention de Talbot qui est utilisée sur les premières fouilles au Proche-Orient.
Et donc, ces quatre personnes vont concourir
Alors, c'est Talbot qui propose le concours, en fait. Ouais. C'est lui, il commence à travailler sur ce prisme, et puis il demande à ce que l'Académie royale n'ouvre pas sa lecture tant que Rawlinson n'a pas fourni lui-même sa copie, et c'est l'Académie royale qui propose proposé le test aussi à Edward Hinks et à Jules Appert. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement les copies concordent, mais c'était quand même celle de Talbot qui était un peu la plus éloignée, parce que vraiment c'est un autodidacte complet et qu'il n'avait pas le bagage linguistique des autres.
Et donc on voit naître là une science, on peut dire, Dominique Charpin. C'est la naissance d'une science. C'était la préhistoire de cette science auparavant, et là maintenant, à partir de ce moment-là, la syriologie, même si le terme est contestable ou contesté parce que c'est un terme du 19e siècle, ça naît à ce moment-là.
Absolument. Et donc il y a des outils qui sont mis au point, et c'est là où Appert a joué un grand rôle, précisément parce qu'il a été le premier à fournir une liste de signes cunéiformes avec les différentes valeurs que ces signes peuvent avoir, qui a rendu un très très grand service, au point que Rawlinson lui-même a considéré qu'on devait confier à Appert, donc à la fin de sa vie, le titre de père de la syriologie. Donc c'était une façon très élégante de la part de Rawlinson, qui avait apporté une contribution très très importante, de reconnaître que c'était Jules Appert qui avait sans doute été le qui avait apporté les contributions les plus décisives au progrès de cette science.
Et puisque vous vantez donc les qualités de Jules Appert, le voici qui prononce une allocution à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en décembre 1903.
La Société allemande d'Orient a envoyé sur les ruines de Babylone une expédition dont les résultats ne sont pas si fructueux que ceux des missions françaises, anglaises, turques et américaines. Cela a sa raison, dans le fait que le chef, un artiste, a surtout fait des fouilles pour dégager ce qui reste du palais de Nabuchodonosor, dans le but d'être agréable en haut lieu, où l'on semble désirer la confirmation impossible des faits non historiques relatés dans le livre de Daniel. Monsieur Friedrich Delitzsch, dans un discours qu'il a fait devant la cour, a prétendu, sans aucune raison, qu'Hérodote s'est trompé, et a induit en erreur monsieur Appert sur l'étendue de Babylone. Il est bien heureux que M. Appert ne soit pas accusé d'avoir induit en erreur le père de l'histoire. M. Appert qui, pendant 2 ans, a parcouru la plaine babylonienne dans tous les sens, qui a relevé trigonométriquement 500 km², démontre l'exactitude des dimensions d'Hérodote, qui donnait à l'espace entouré du Grand Mur une étendue de 500 km². Tous les écrivains de l'Antiquité, les historiens d'Alexandre, Clitarque, Ctésias, Diodore de Sicile, Dion Cassius, Pline, Sotion, Quinte et Curcée, Strabon, Philostrate sont unanimes à seconder Hérodote. Aristote dit que Babylone ressemblait plutôt à un peuple qu'à une ville. Pausanias l'appelle la plus grande ville que le soleil ait éclairée dans sa course. Les données transmises par les auteurs sont d'ailleurs confirmées par de nombreux textes cunéiformes et par l'exploration du sol de Babylone même, où l'exploration allemande n'a pas trouvé un seul fait qui pourrait, de près ou de loin, infirmer le dire des anciens.
1903 quand même, en l'occurrence Dominique Charpin, on est en pleine querelle entre la France et l'Allemagne, on a perdu à Sedan, on va bientôt peut-être relancer une guerre, et donc Jules Appert, allemand, né à Hambourg, devenu français, est extrêmement anti-germanique, en l'occurrence, dans ce texte-là.
Oui, je dirais il y a 3 éléments qui se superposent. D'abord, une question de caractère. Appert, on l'a déjà vu dans l'extrait contre Renan, était un polémiste redoutable. Ça lui a pas valu, d'ailleurs, que des amitiés dans sa carrière, bien entendu. Il y a ce côté, en effet, anti-allemand. Donc là, la pique, c'est par rapport à Koldewey, qui était l'architecte qui a lancé les fouilles de Babylone. Et là, il faut dire que c'est totalement injuste, ces critiques d'Appert à l'égard des fouilles allemandes. Ça a été vraiment le début de l'archéologie scientifique, et précisément parce que on a eu un architecte, il avait le souci de relever les plans des bâtiments, ce qui ne se faisait pas avec le même degré de précision. En l'occurrence, c'est pas très juste, mais effectivement, je dirais que cette pique anti-allemande s'explique à la fois par son histoire personnelle. Hein. Il faut bien voir que lorsqu'il a quitté l'Allemagne, les Juifs n'avaient pas le droit d'enseigner à l'université. Notre mémoire collective pense au nazisme par rapport à l'antisémitisme, mais c'était quelque chose de très enraciné et de beaucoup plus ancien. Et puis donc, là, vous l'avez dit, la date de 1903, évidemment, ne contribue pas. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Moi, j'ai été très surpris de me rendre compte qu'il y avait encore des collaborations scientifiques. Par exemple, Appert avait été invité par Betzold à faire partie du comité scientifique du Zeitschrift für Assyriologie, qui avait été fondé en 1886.
Hein. Et Cécile Michel ?
Oui, alors ce que je voudrais ajouter, c'est effectivement, c'est le vrai début de l'archéologie, c'est-à-dire que les Allemands envoient des architectes au Proche-Orient. Donc il y a les fouilles de Babylone, il y a les fouilles de Assur avec Walter Handrail.
Ce qui vaut quand même que le Bergamon soit un magnifique musée avec en particulier des lions et puis aussi
la porte d'Ishtar de Babylone. Hopper n'avait pas complètement raison, puisque l'extrait parle de la taille de Babylone. Hopper avait estimé que Birs Nimrud, qui est en fait la ville de Borsippa, était un quartier de Babylone, parce qu'il était quand même très imprégné de ce récit biblique avec cette taille gigantesque de la ville. Et donc, il a cru pendant un certain temps que cette ville, qui est en fait une vraie ville, la ville de Borsippa, n'était qu'un quartier de Babylone. Donc, il en avait fait une ville aux limites très, très étendues.
On peut dire qu'à partir de ces années 1880-1900, la science assyriologique est assez développée, assez installée pour que dans le monde entier, une sorte de communauté de savants puisse dialoguer, Dominique Charpin.
Tout à fait, mais il faut peut-être citer un autre épisode qui est très important, c'est celui de la découverte des Sumériens. C'est-à-dire que la recherche, après s'être concentrée pendant des décennies sur le nord de l'Irak actuel, on est toujours à l'époque dans l'Empire ottoman, s'est déplacée vers le sud, et en particulier à partir de 1877, des Français, avec Ernest Sarzec comme chef d'expédition, ont fouillé le site de Tello, et on fait des découvertes très intéressantes et on découvert des textes qui étaient écrits uniquement avec ces logogrammes dont parlait Cécile Michel tout à l'heure, et ça a donné raison à Hopper qui estimait qu'au départ on avait une écriture cunéiforme qui n'était pas destinée à noter l'assyrien mais à noter une autre langue. Alors il a hésité pour savoir comment l'appeler, il a appelé ça touranien pendant très longtemps, et puis finalement il s'est avéré que c'était sumérien qui était la bonne désignation pour cette langue. Donc à partir du moment où on a su que on avait d'abord une écriture sumérienne et puis ensuite l'adaptation de l'écriture cunéiforme par des gens qui avaient une langue différente qui était l'assyrien, alors les choses sont devenues plus claires.
Victor Massé-Lépine. Et en 1905, François Thureau d'Angin publie Les inscriptions de Sumer et d'Akkad, qui est un livre fondamental. Est-ce que c'est quelque part l'achèvement de ce déchiffrement des écritures cunéiformes, Cécile Michel ?
Eh bien oui, parce qu'en fait, alors le sumérien, c'était un autre problème, effectivement, pour le comprendre, et il a était en partie déchiffré grâce à des listes lexicales. Alors ces listes lexicales, c'était le moyen pour les petits scribes au début du deuxième millénaire d'apprendre une langue qui était morte à cette époque-là. C'est-à-dire que le sumérien a été, comme c'était les inventeurs de l'écriture, ils ont laissé un bagage culturel énorme, et cette langue a été apprise pendant deux millénaires dans le milieu des scribes, dans le milieu cultuel aussi, comme nous, on a appris le latin à l'école, comme les prêtres, ou le grec ancien. Et donc c'est comme ça, c'est grâce à ces listes bilingues qu'on a pu remonter en arrière et déchiffrer. Donc le déchiffrement s'est fait dans le sens inverse de l'histoire des écritures, c'est-à-dire on a commencé par déchiffrer le plus récent, le vieux perse, puis on est remonté à l'acadien, puis on est remonté au sumérien.
Dominique Charpin.
Oui, ce qui fait que les assyriologues finalement se sont retrouvés exactement sur les bancs de l'école à utiliser les manuels que les maîtres d'école du début du deuxième millénaire avant notre ère avaient fait pour leurs propres élèves. Et c'est une situation que nous vivons toujours, car la reconstitution de ces listes lexicales n'est pas encore achevée et on continue à en apprendre tous les jours.
Victor Massé-Dépinay.
Oui, il y a une autre étape dans ce déchiffrement de l'écriture dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, parce que peut-être ça dit quelque chose à certains de nos auditeurs, c'est le code d'Hammurabi, et quelle place ça a eu dans l'histoire de ce déchiffrement.
Alors le code de Hammurabi, donc il est exposé au Louvre actuellement, c'est une stèle qui est assez grande et qui comporte 282 articles de loi rédigés sous le règne de Hammurabi de Babylone au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui est un des premiers, mais qui n'est pas le tout premier code de loi. Alors c'est amusant parce que cette stèle n'a pas été trouvée à Babylone, mais elle a été trouvée à Suse, en Iran, parce que cette stèle avait été remportée comme un trophée de guerre par les Élamites au XIIe siècle avant Jésus-Christ.
Et là, on peut dire, du point de vue de l'histoire du déchiffrement, que l'épigraphiste de Suse de l'époque, qui était le père Vincent Scheil, qui était un dominicain, il a fait quelque chose d'extraordinaire, puisque en même pas six mois, il a donné une traduction qui reste encore aujourd'hui tout à fait intéressante. Et ça se passait en 1901-1902, voilà.
Et vous êtes combien aujourd'hui d'assyriologues, donc arrivant, parvenant à lire ces langues dont on a parlé depuis le début, Cécile Alors, Michel, puisque vous êtes présidente de l'Association d'assyriologie mondiale?
Officiellement, aujourd'hui, nous sommes 450 assyriologues dans cette association. On peut estimer que c'est à peu près le nombre d'assyriologues qui vivent, qui ont fait leur métier de cette discipline. On en a en Chine, au Japon, et on en a au Brésil. Donc, c'est très étendu. On est une espèce de grande famille et on ne travaille qu'à l'espace international parce qu'on n'est pas assez nombreux par pays pour réellement travailler.
Et on a entendu dans le documentaire La Balade de lundi, donc, qui avait été concocté par Victor Massé de Lépiné, ces tentatives de restitution de la langue, parce que la langue c'est bien quand on la lit, mais c'est bien aussi quand on la parle. Et donc vous tentez tous, plus ou moins Dominique Charpin, de prononcer ces langues, de tenter de leur donner un accent d'une certaine façon.
Oui, c'est quelque chose de très difficile. Moi, ce qui m'a frappé en écoutant les essais qui avaient été mis en ligne par un collègue anglais, c'est qu'en fait, on voit très bien l'arrière-plan linguistique du locuteur moderne, c'est-à-dire que les Anglais prononcent avec un accent anglais. Et ceux de nos collègues qui veulent donner un côté plus authentique, souvent, ils mettent un accent arabe qui n'était pas forcément... Voilà. En réalité, il faut bien reconnaître qu'on a des problèmes considérables, encore plus pour le sumérien, d'ailleurs, que pour l'acadien.
Parce que c'est la langue la plus ancienne.
Voilà. Et on a d'ailleurs des histoires drôles antiques où il y a un médecin qui se promène dans une ville et puis il y a quelqu'un qui l'apostrophe en sumérien et il comprend pas, il croit qu'on se moque de lui. Et c'est la même histoire que chez Molière entre ceux qui parlent le latin et ceux qui ne le parlent pas.
Merci Dominique Charpin. Si on veut en savoir plus sur ces questions, on peut lire votre leçon donc au Collège de France, la leçon inaugurale que vous avez donnée, qui a été publiée comme toutes les leçons inaugurales du Collège de France.
Alors vous avez à la fois le livre papier chez Fayard et puis vous avez la possibilité de l'avoir sur le site Open Edition Collège
et,
de France.
Et puis aussi donc de pouvoir l'écouter en l'occurrence sur le site du Collège de France, tout à fait. Et puis Cécile Michel, vous tenez un blog, vous le tenez toujours votre blog?
Oui, c'est à la demande du journal Pour la Science. Je tiens un blog en essayant de donner des nouvelles sur ce qui se passe dans le monde de la sériologie.
Et ce blog est très intéressant et il nous permet justement de nous mettre à jour sur ces questions qui sont toujours en évolution, comme l'a dit tout à l'heure Dominique Charpin. Nous continuons demain notre série sur la question justement de la Mésopotamie et nous allons nous intéresser, Victor Massé de Lépiné.
À la proto-mondialisation, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a eu des relations premier millénaire entre l'Égypte et la Mésopotamie?
Et lesquelles? Donc nous aurons plusieurs invités autour de ce thème. Merci à vous, Cécile Michel.
Merci
Dominique Charpin et merci à Daniel Königsberg qui a lu les textes de ce matin. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marsay, Anthony Thomasson nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, toutes les autres de la série ou toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les y télécharger pendant un an après leur diffusion. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse Twitter est FabriqueFC.